BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour De quoi je me mêle. Vous savez, on est là chaque week-end, à la fois sur 01 TV, sur la chaîne 01 TV sur les box, mais aussi sur YouTube, sur 01net.com et le week-end, le dimanche plus précisément, le dimanche matin sur BFM Business, à la radio, à la télé. Je suis très heureux de vous retrouver avec un De quoi je me mêle exceptionnel puisque nous sommes ici à VivaTech, le retour des salons tech, ça fait plaisir, franchement. Et voilà, nous sommes au cœur de ce salon qui, avait déclaré forfait l'année dernière. Il revient donc avec des mesures sanitaires assez importantes, mais malgré tout, ça fait plaisir de voir des stands, des innovations, des journalistes, et puis simplement rencontrer des gens. On en parlait d'ailleurs sur BFM Business dans Tech & Co, pas plus tard qu'avant-hier. Alors, au menu de ce De quoi je me mêle aujourd'hui, tout à l'heure, on évoquera la e-santé avec pas mal de nouveautés du côté du français Barracoda qui s'est spécialisé là-dedans avec des miroirs connectés, de nouveaux objets, et puis un partenariat avec Huawei aussi qu'on évoquera. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez réagir au contenu de ce De quoi je me mêle, le hashtag DQJMM sur Twitter, la page Facebook qui vous attend, bien évidemment, si vous voulez réagir aussi. Merci d'être là et bienvenue. Et on commence donc par le club de la presse IT et ils m'ont rejoint ici. Bon, alors c'est pas très très loin de nos studios, hein, mais malgré tout, il fallait prendre deux arrêts de tram. Nicolas Lelouch est là. Bonjour Nicolas.
Bonjour François, bonjour à tous.
Journaliste à 01net.com et Emmanuel Paquette aussi est avec nous aujourd'hui. Bonjour,
bonjour
Emmanuel.
Et bonjour Nicolas. Ouais.
Voilà, on va pas changer les bonnes habitudes, on va revenir sur l'actualité tech de cette semaine, une actualité qui est très chargée, hein. Alors bien sûr, il y a VivaTech. Peut-être qu'on peut en dire un mot, je ne sais pas, ce n'était pas prévu, mais est-ce que ça vous inspire, VivaTech ? C'est vrai que ça fait plaisir quand même de revenir dans un salon et de retrouver des habitudes qu'on avait complètement perdues.
C'est ça qui est intéressant dans cette édition de VivaTech, c'est que c'est le premier véritable salon high-tech. Y en a tellement en fait, dans ce milieu, que ce soit le Mobile World Congress de Barcelone, l'IFA, bien sûr le CES à Las Vegas, toutes les conférences développeurs de toutes les marques. Et là, c'est la première fois qu'on peut de nouveau goûter à ces événements, évidemment avec énormément de gestes barrières de partout, du gel hydroalcoolique. On voit un peu à quoi vont ressembler les prochains mois, mais c'est plutôt une bonne chose de voir un salon de retour à l'ancienne.
Avec Emmanuel aussi, il y a quand même une volonté même du gouvernement hein, de remettre un petit peu la machine en route, j'ai envie de dire. Emmanuel Macron qui est venu, Bruno Le Maire qui est passé aussi, Cédric O, bien évidemment. C'est peut-être aussi un symbole du coup d'envoi de la reprise en quelque sorte, non ?
Oui, de la reprise avec plein de levées de fonds importantes qui ont eu lieu ces derniers temps. Donc effectivement, on voit tous les ministres qui font un peu la ronde là pour faire la tournée des popotes. Cédric O, je pense qu'il reste à peu près la totalité de l'ensemble de VivaTech. Hein, donc,
c'est son salon.
Son salon, mais d'habitude, je ne suis pas certain que le secrétaire d'État au numérique reste aussi longtemps. Mais enfin bon, voilà, en tout cas, il est présent. Et puis on voit des têtes d'affiche, hein, Tim Cook qui pour la première fois donc, a pris la parole en visioconférence hier, hein, le PDG d'Apple. Et puis là, il y a Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, qui lui aussi va faire une visioconférence. Donc bon, c'est plutôt du beau monde, hein. C'est plutôt une belle édition, même si on voit qu'il y a moins de stands que d'habitude, mais c'est un bon redémarrage quand même.
Voilà, avec Tim Cook, moi je pensais que c'était en fait un message préenregistré, non, c'était une vraie interview hein, qui a été réalisée avec nos confrères de Brut. C'était assez intéressant, hein.
Après,
avec le message prélissé.
Exactement, c'est le problème d'Apple, quand on interview Apple ou Facebook, hein, donc Tim Cook ou Mark Zuckerberg, c'est que vous savez très bien qu'ils ne vont rien vous annoncer, parce que s'ils avaient quelque chose à annoncer, ils l'auraient fait plus tôt. Il y a eu des questions amusantes sur l'iPhone 30, sur l'Apple Car, sur la vision d'Apple sur le futur, mais on n'a évidemment pas appris grand-chose, mais ça reste sympa de voir Tim Cook en duplex sur un événement.
Oui, c'est clair.
Surtout à Paris.
C'est clair, et puis ça prouve aussi que ces géants d'Internet sont intéressés par notre pays et par cet événement. Bon, écoutez, c'est plutôt
facteur. Chose, tout à fait,
ouais. Cocorico, comme on dit. On va commencer donc avec cette actu qui a complètement bouleversé le monde du football français, et notamment la Ligue 1 et la Ligue 2, avec Amazon qui, suite à un coup de théâtre, va rafler quasiment tous les droits des matchs de foot à partir de la saison prochaine. Ça arrive dans quelques semaines, hein, Nicolas.
Ça arrive au mois d'août. Et le terme coup de théâtre, je trouve, convient extrêmement bien à cette situation parce qu'on parle depuis des années, Emmanuel ne me contredira pas, du fait que les GAFA s'intéressent au foot. Et est-ce que finalement, le futur des événements sportifs, ce n'est pas ces grosses entreprises et non plus, justement, les chaînes de télévision habituelles? Le truc, c'est que là, il n'y avait pas de rumeur. Amazon n'était absolument pas suspecté de vouloir acheter la Ligue 1. Et vendredi dernier, à la surprise générale, il y a un communiqué de la Ligue de football professionnel qui annonce que c'est Amazon qui va payé 250 millions d'euros par an pour avoir 80% des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Évidemment, ça n'a pas plu aux acteurs traditionnels. Canal+ a immédiatement annoncé qu'il se retirait du football français et qu'il ne voulait plus diffuser les matchs, alors qu'il a pourtant 20% des rencontres, les deux rencontres du week-end qui seront toujours possédées par une chaîne traditionnelle. Toujours est-il que c'est un vrai bouleversement pour le foot français. Il y a plein d'interrogations. Déjà le prix, aujourd'hui Amazon Prime Video, c'est 6€ par mois ou 50€ par an. Est-ce qu'on peut rester à ce prix avec le football français? Si c'est le cas, ça veut dire qu'Amazon ne va absolument pas faire de bénéfices et que c'est juste un produit d'appel, parce que si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous allez peut-être commander vos prochaines piles ou vos prochains rasoirs sur Amazon Prime. On a aussi d'autres interrogations sur la manière dont ça sera diffusé, oui. Parce que c'est bien beau d'avoir Amazon Prime Video, on a vu qu'avec Roland Garros, ils ne sont pas vraiment embêtés Amazon. Ils ont mis un lien en page d'accueil, on clique dessus, on a le match en direct, point. Sur le foot, est-ce qu'on fait pareil? Ou est-ce qu'on va mettre des stats enrichies en temps réel? Est-ce qu'on va donner, par exemple, sur Twitch, la possibilité aux gens de commenter les matchs pour de sortir un petit peu du terrain?
En fait, le champ des possibles est monstrueux.
Le champ
là.
Des possibles est monstrueux arriver. Quand on est Amazon, quand on est un GAFA, quand on veut changer le modèle économique. Et après, autre question, nous, les gens qui écoutent De Quoi Je Me Mail, ça ne doit certainement pas leur faire peur de regarder le foot sur Amazon Prime Video, mais quitte des grands-parents qui ont leur box orange, qui passent par la TNT.
Bien sûr.
Est-ce qu'on va avoir un flux Amazon Foot qui sera vendu aux opérateurs? Est-ce que les entreprises comme Canal Plus ne vont pas tout faire pour empêcher Amazon de réussir à avoir ce flux? Il y a vraiment plein d'interrogations. Et si on... En temps normal, une telle révolution, ça prendrait 2 ans. Là, ça va se faire...
Dans 2 mois. Ouais.
C'est là où c'est vraiment intriguant et on se demande vraiment ce qui va se passer autour du football français et est-ce que Amazon va vraiment prendre le contrôle de cet événement qui est quand même important.
Emmanuel, en plus, ça a été vraiment, comme je disais, coup de théâtre. C'était pas prévisible. On savait évidemment qu'Amazon était intéressé par le sport, Roland Garros, justement. Mais bon, ça n'a rien à voir. Enfin, on n'est pas dans la même cour. Hein.
Ah non.
Le prix des droits n'est pas le même.
Non, tu as raison. Alors, il y a deux raisons pour ça. La première, effectivement, comme tu le dis, le montant d'acquisition des droits, ça n'a strictement rien à voir, hein, puisque là, on parle de 250 millions d'euros. Alors, il faut savoir qu'ils ont repris le lot de Mediapro, qui avait acheté ces mêmes lots, 780 millions d'euros. Hein. Donc, ils acquièrent pour 3 fois moins cher. Donc, de ce point de vue-là, ils font quand même une super opération, ce qui énerve Canal+, puisque eux avaient acheté au prix fort, hein, donc avaient acheté au prix sport, qui eux-mêmes sous-licencient à Canal+. Donc, on voit qu'ils considèrent qu'il y a un défaut de prix entre, d'un côté, Amazon qui fait une super affaire et eux qui ont acheté les droits il y a longtemps à un prix très élevé. Donc, il va forcément y avoir des recours, déjà, pour commencer. Donc, ça, c'est quasi certain. Et puis, l'autre élément, comme le disait très bien Nicolas, c'est qu'est-ce que va faire Amazon sur les prix? Puisqu'il faut savoir quand même qu'en Europe, on est un des prix les plus bas, avec 49€ par an. Mm-hmm. Quand on regarde les États-Unis, où ils ont acheté les droits du football américain très très cher, l'abonnement Amazon Prime, c'est $110 par an. C'est quasiment 2 fois plus. Alors, 1€ n'est pas égal à 1$, mais on n'est pas loin. Et quand on regarde en Angleterre, où ils ont acheté les matchs de Premier League, une partie des matchs de Premier League, l'abonnement est de £79. Donc, ça fait à peu près 92€. Donc, il est fort probable... Alors, j'espère que je ne vais pas être pris à revers, mais que Amazon
augmente le prix de son Prime.
Voilà.
Après, est-ce que ça sera une option dans Prime? Parce que ceux qui n'aiment pas le football seront peut-être mécontents de se retrouver avec un abonnement Prime Vidéo qui double de prix, finalement. Est-ce que ça sera une option ou pas? Je vous rappelle qu'il y a des options quand même dans Amazon Prime Vidéo aujourd'hui. Hein. Vous pouvez souscrire à des chaînes de VOD en ajoutant un abonnement supplémentaire. On peut très bien imaginer, par exemple, que le foot, ça serait 15€ de plus par mois en cliquant sur Amazon Prime Vidéo à l'intérieur de l'interface.
Le risque, ça serait de fragmenter au final l'audience d'Amazon Prime. Et pour eux, ils ont tout intérêt à avoir une offre unique, qu'on aime le foot ou qu'on n'aime pas le foot. La question, c'est est-ce qu'augmenter les prix, ça ne va pas faire du mal? Et en rappelant une chose quand même importante, hein, c'est que Mediapro, l'année dernière, quand ils étaient là avec Téléfoot, c'était 19€ par mois. Et Canal+, à lui seul aussi, c'est 20€ par mois. Donc quelqu'un qui veut suivre le football français, et seulement le football français, parce que les droits européens, les droits espagnols, anglais, ça pouvait être ailleurs, il en avait quand même pour minimum 40€ par mois. Si là, on passe à 5€ ou à 10€ avec Amazon, dans tous les cas, impossible pour un acteur traditionnel de rivaliser. Donc la boîte de Pandore est ouverte, ça c'est une certitude. Jusqu'à maintenant, on ne touchait pas aux GAFA et on se concentrait sur des acteurs de médias traditionnels. Et à partir du moment où Amazon est là, on ne sait pas ce qui va se passer pour les autres compétitions. Facebook, Amazon, Apple, il y a plein de possibilités.
Et Netflix
trop sur les événements en direct, mais c'est vrai que ça serait logique. C'est tellement logique d'avoir des flux différents, de pouvoir choisir, de pouvoir changer. On sait que, par exemple, en Angleterre, il y a un exemple, Amazon permet de désactiver les commentaires pour n'entendre que le stade. Ça, il n'y a aucun acteur de football traditionnel qui fait ça. Et si on va plus loin, si on intègre à Twitch, si on essaye vraiment d'aller Oui, d'aller au-delà.
En fait, ça va être une expérience de foot qui n'a strictement rien à voir avec...
Ou alors, ça va être la même chose parce qu'Amazon est quand même souvent un peu fainé. On peut reconnaître que contrairement à Netflix ou à Disney qui essayent de bouger les choses sur le streaming, Amazon se contente souvent de mettre un lien vers un flux, ne pas s'embêter, faire une com minuscule et ça leur va. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions.
Mais là, peut-être que l'investissement de 250 millions va les motiver à en faire un peu plus.
C'est sans doute le plus gros, je sais pas, j'espère ne pas dire une bêtise, mais c'est sans doute leur plus gros investissement sur le sport. Parce qu'en Angleterre, ils ont des matchs au Boxing Day, ils ont quelques matchs, mais ils n'ont pas toute la compétition. Là, acheter toute une compétition, ça allait beaucoup plus loin.
Mais Emmanuel, est-ce qu'en deux mois, on peut mettre en route une machine pour diffuser des matchs? Parce qu'on a évoqué les droits, mais après, il y a tout. Enfin, toute la production de ces matchs, recruter des journalistes, des experts, enfin des consultants. On sait aujourd'hui que tout ça, ça prend du temps et ça coûte beaucoup d'argent.
Alors, l'argent est long.
Oui, il n'y a pas de problème. Ça, je suis sûr, oui.
Le temps, effectivement, c'est vrai que là, ça va être assez intéressant de voir la qualité de retransmission des commentateurs. Donc, effectivement, comme le disait Nicolas, ça va être extrêmement intéressant. Après, ils peuvent aussi avoir des features, enfin, des choses en plus que les autres n'ont pas. Par exemple, tu vois, de pouvoir regarder à distance le même match avec des amis qu'on peut inviter, ce que fait Amazon par exemple sur les séries et les films, on l'imagine en live, c'est quand même extrêmement puissant, qui est dans aujourd'hui Amazon Prime Video. Et puis une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, a priori, alors les chiffres, même si Amazon ne communique pas dessus, on serait autour de 10 millions d'abonnés à Amazon Prime en France. Si on augmente de 5 euros ou de 10 euros, si on double même, si on augmente de 10 euros par an, vous imaginez.
Mais très vite, en fait, ils amortissent le prix de...
Exactement, avec 10 millions d'abonnés. Ouais. Oui.
Alors... Sans compter aussi, après, on va dire, la croissance organique, le fait que s'il y a plus de monde qui ont un abonnement Prime, ils vont commander plus, bénéficier, profiter de plus de services d'Amazon, et donc dépenser plus.
Exactement, parce que c'est ça, en fait, Amazon. Hein,
bien sûr.
Ils se servent de ça comme produit d'appel.
Oui, c'est un produit d'appel pour après qu'on commande sur Amazon.
Voilà, et surtout, faire augmenter le panier moyen des commandes sur Amazon.
Tout ça est très intéressant. On pourra en parler pendant des heures. Hein.
Mais, complètement. Mais on en parlera, je pense, au lancement. On pourra un peu analyser ce qu'ils ont fait. Je pense qu'il y aura des conférences tout au long de l'été.
Parce que la Ligue 1, ça commence quand? En août, non?
Ça commence fin août, normalement.
Voilà, c'est ça.
Donc ça va aller assez vite. Donc j'imagine qu'il y aura une conférence de presse cet été pour annoncer le dispositif quand ils seront prêts. Mais là, c'est un peu.
Je pense que la RH d'Amazon, là, ça doit chauffer quand même. Bon, allez, on enchaîne avec Microsoft maintenant. Microsoft qui a fait fuiter, on ne sait pas si c'est une fuite, toujours pareil, intentionnelle ou accidentelle, concernant le futur de Windows, Nicolas.
Oui, je pense très sincèrement que ce n'est pas une fuite accidentelle, parce que pour eux, ça cache toute la surprise et ça gâche beaucoup de choses. Ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, le 24 juin prochain, on en a parlé dans cette émission, il y a une conférence dédiée au futur de Windows, où on est censé voir, d'après les rumeurs, Windows 11. Cette semaine, malheureusement pour Microsoft et pour les gens qui voulaient garder la surprise, il y a Windows 11 qui a fuité. Donc il est possible de l'installer sur n'importe quel ordinateur. On sait que ça s'appelle bien Windows 11 du coup. On a déjà les premières nouveautés, à savoir le menu démarrer qui maintenant sera au centre de la barre de tâches. Autant vous dire que ça ne va pas durer longtemps parce qu'il y a déjà la colère des gens et ce n'est pas logique d'avoir un truc en plein milieu de l'écran quand on est dans une application. Donc on a une option pour le remettre à gauche si on veut. Il y a des nouvelles options aussi pour scinder son application, la mettre sur différents endroits avec une meilleure gestion du multitâche. Mais il faut reconnaître que c'est à peu près tout. Il y a un petit peu de choses qui sont nettoyées, mais les différences dans cette version bêta sont quand même très légères.
Voilà.
Donc la question, c'est est-ce qu'on est sur une mise à jour de continuité, à savoir Microsoft va sortir Windows 11 cette année, Windows 12 l'année d'après, Windows 13 l'année suivante, ce qui voudrait dire qu'on va rejoindre un modèle à la Apple avec un numéro pour identifier l'OS, ou alors est-ce que la version qui a fuité est vraiment une pré-version avec très peu de mise à jour et que le vrai Windows 11 qu'on aura le 24 juin sera beaucoup plus complet. Donc là aussi, ça s'annonce passionnant et on va certainement beaucoup en parler.
On en parlait aussi. Est-ce que finalement, c'est pas un petit peu du marketing tout ça? Est-ce qu'on peut imaginer que il y a une rupture entre Windows 10 et Windows 11? Est-ce que ça serait souhaitable? Peut-être pas. Il y a des milliards de gens qui utilisent cet OS. On peut pas tout changer d'un coup. Donc c'est souvent des améliorations incrémentales. C'est peut-être aussi pour redonner un coup de com en fait à un Windows qui marche bien. Communiquer sur un nouveau Windows 11, on rajoute 2-3 features et c'est réglé.
Ça peut booster les ventes, c'est évident.
Emmanuel ?
Oui, et puis il faut voir que Microsoft a quand même annoncé la mort déjà de Windows 10, puisque là, ils vont arrêter de réaliser l'assistance autour de Windows 10 d'ici octobre 2025. Donc il y a un compte à rebours, pas tout de suite, c'est dans 4 ans. Mais donc il faut que les gens basculent assez rapidement. Ça laisse 4 ans pour basculer sous cette mouture de Windows. Donc déjà, c'est un premier point. Puis le deuxième, alors moi, j'étais un peu étonné parce que c'était un peu retour vers le futur. On voit le retour des widgets que moi, j'avais vu disparaître. Vous savez, ces petites applications qu'on peut mettre sur son fond d'écran, qui est en fait l'ancêtre des applications comme on les a aujourd'hui sur son smartphone. Et donc là, maintenant, on peut réinstaller des widgets sur, sur Windows. Ça a été le cas, je crois, dans les anciennes versions.
Dans Windows Vista, notamment.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc bon, j'ai trouvé qu'en termes d'innovation, on pouvait faire un peu mieux que de retourner en arrière. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'innovation comme ça, à part un design et une interface utilisateur qui est un peu plus sexy. Mais voilà, il faut, faut voir à l'usage maintenant.
On peut imaginer une keynote, bien sûr, pour l'annonce de ce Windows 11, non ?
Oui, c'est le 24 juin 24 à 20h. Ça fait 11h Pacific Time. Ce n'est pas du hasard. Il n'y a jamais de conférence à 11h chez Microsoft. Si on fait 11, c'était en effet pour annoncer Windows 11.
Et évidemment, on en parlera dans De quoi je me mail et puis sur 01 TV. On enchaîne avec cette information aussi. Alors, attendez, des coups de théâtre, on en a eu quand même pas mal. Cette association improbable entre Quant, le moteur de recherche français, bon alors qui a un peu de mal hein, quand même, il ne faut pas se voiler la face, hein. Ça devient de plus en plus compliqué pour Quant, association avec Huawei. Alors ça c'est quand même étonnant et ça prouve que Quant est dans une situation compliquée, qu'il a besoin d'argent et qui passe, on va dire, qui fait un pacte avec pas forcément l'associé le plus logique, on va dire.
L'alliance, elle n'est pas tout à fait nouvelle, parce qu'en fait, depuis 2020, quand Google a été retiré des smartphones Huawei à cause des États-Unis, Quant avait été choisi comme moteur de recherche par défaut sur les smartphones Huawei. Donc il y avait déjà une relation entre les deux entreprises. À l'époque, on s'était interrogé sur le sens de cette intégration, mais il n'y avait pas forcément d'inquiétude. Et là, ce qui s'est passé, on a appris cette semaine, grâce aux médias Politico, qui a fait une enquête sur le sujet, que le conseil d'administration de Quant, pardon, a voté un prêt de 8 millions d'euros par Huawei. En soi, financer une entreprise, ça arrive souvent. Il y a un fonds d'investissement chez Huawei qui s'appelle Hubble, qui s'occupe justement de financer des entreprises d'autres pays. Et pour eux, c'est tout à fait logique, d'autant plus que ça leur permet de s'accorder quelques faveurs de la France. Et surtout, quand on est dans une situation avec les États-Unis comme ça, il vaut mieux avoir l'Europe de son côté.
L'argent, ça arrange pas mal de choses.
Exactement. Maintenant, ce qui pose problème, je pense que tu es d'accord avec moi, Emmanuel, c'est que Quant, c'est quand même un moteur de recherche qui a pour politique le fait d'être français, d'être pro-européen, de justement respecter les données privées des gens, d'être l'anti-Google à 100%.
Qui a bénéficié de fonds gouvernementaux, rappelons-le. Hein,
la Caisse des dépôts, les consignations.
Dépôts, bien sûr, qui est toujours actionnaire d'ailleurs.
Et voilà, donc tout ça pour dire que c'est très étonnant de s'allier à Huawei. Voilà, je sais que, enfin, je veux pas dire que Huawei est le diable, mais il faut quand même reconnaître que cette entreprise, elle a plein de problèmes géopolitiques avec les États-Unis, avec l'Europe. Elle est suspectée d'espionnage, il y a plein de choses. J'en sais rien, si faux, Huawei est absolument clean et victime d'une campagne de désinformation immense. Mais dans tous les cas, ce n'est pas le meilleur allié quand on a le discours de Quant.
Emmanuel, alors là, c'est vraiment une association improbable. Hein.
Oui, franchement, alors moi, il y a deux choses. La première, c'est qu'on nous vendait un moteur de recherche français, effectivement, comme le disait Nicolas. Là, on se retrouve avec un financement chinois et une base technologique qui n'est pas loin de Bing de Microsoft.
Oui, donc c'est ça.
Une brique technologique américaine. Donc on fait un peu mieux quand même en termes de souveraineté française. Même si les fondateurs expliquent depuis le début que c'est transitoire. Hein. C'est juste parce qu'on a besoin de s'appuyer sur des technologies américaines avant de pouvoir avoir une indépendance complète vis-à-vis d'elles. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, moi, ce qui me trouble fortement, c'est qu'on voit que l'État français essaye de mettre Huawei en dehors des réseaux 5G. On en a parlé plein de fois ici. Hein. Et là, accepte que Huawei finance ce moteur de recherche qui, je vous le rappelle, est installé par défaut dans la majorité des administrations françaises, à la demande du gouvernement. Donc on se retrouve avec une société française, certes, mais financée par des fonds chinois, qui aujourd'hui équipe l'administration française. Pour moi, on va en sens inverse total de ce qui était le discours politique.
Après, est-ce que c'est 8 millions, on parle, hein, je crois, 8 millions d'euros. On sait que Quant est dans une situation compliquée. Hein, Quant perd de l'argent depuis des années. Ouais. Gestion, on va dire, pour le moins calamiteuse. Direction qui a changé il y a un an ou deux, je crois. Hein. Est-ce que ça veut dire que si Huawei met 8 millions, ça veut pas pour autant dire qu'ils vont avoir accès à des données sensibles, en fait. On a le dispositif de ce financement ?
Alors oui, c'est des obligations convertibles. Donc en fait, comme le disait, une obligation, ça ressemble un peu à un emprunt, c'est-à-dire qu'on a l'argent et on rembourse l'argent avec un petit taux d'intérêt, donc c'est une émission obligataire, voilà. Mais convertible, ça veut dire que ça peut être converti en actions. Donc à un moment donné, on peut dire...
Si par exemple, Quant ne paie pas,
voilà.
Bah oui, peut dire, bah écoutez, moi je vous prends 10%. Quoi.
Voilà,
ça peut jusqu'à 7,5%. 7,5%. Ce que disait
Politico. Exactement. Donc oui, il y a un risque que Huawei, à un moment donné, rentre au capital. Après, il y a des dispositifs français qui font que on peut bloquer un investissement étranger en France dans certains types de sociétés. Donc je pense que politiquement, ils ne le feront pas pour plein de raisons, parce que tout le monde hurlerait, parce que le gouvernement monterait au créneau. Donc Huawei ne le fera pas. En revanche, comme le disait très bien Nicolas, c'est du lobby de l'entreprise chinoise pour dire que finalement, ils participent à l'écosystème français, ils sont là pour financer, aider l'écosystème français. Donc en fait, ça compte, permet d'être un peu l'idiot utile d'une certaine façon de Huawei dans sa communication.
C'est compliqué, hein, cette histoire-là. Hein.
Forcément. Ouais. Qui touche Huawei est compliqué depuis 2 ans et c'est assez dommage, on en parle assez souvent, ce qui arrive à cette entreprise qui était partie pour être un monstre et qui était censée une vraie entreprise mondialisée et qui est en train de basculer dans une représentation de l'économie chinoise en Europe et ailleurs. Et je ne sais pas trop comment ça va évoluer, mais c'est sûr que ce genre d'actualité fait un peu peur.
Voilà, comme vous le disiez, avec derrière la petite musique de fond de Microsoft et de Bing, hein, puisque rappelons que les bases en fait, de ce moteur repose sur Bing.
En partie, oui.
En partie. Hein. Mais bon, il y a du Microsoft à l'intérieur. On enchaîne avec ce sujet que tu as choisi, Emmanuel, concernant le FBI qui veut classer les rançongiciels au rang d'attaque terroriste.
Oui, parce que ça survient en fait après donc une double attaque, une attaque d'une part sur les pipelines américains, donc qui a bloqué pendant plusieurs jours quand même l'acheminement.
Ça a été un sacré choc, hein, cette histoire.
Ouais, c'est vraiment un choc. Moi, ce qui me choque, c'est que quand c'est des hôpitaux qui sont bloqués, on dit ouais, c'est grave, mais bon, on n'agit pas beaucoup. Quand c'est du carburant pour alimenter toute une côte américaine et que ça bloque même le trafic en partie des gens.
Là c'est la vraie secousse.
Voilà, exactement. Bon, après, on met un peu met le curseur un peu où on veut, hein, entre les hôpitaux et puis il y a une troisième attaque, hein, là, contre un des grands fournisseurs alimentaires de viande aux États-Unis, qui lui aussi a été bloqué par un rançongiciel. Donc là, effectivement, le FBI dit que maintenant, ça peut être classé en tant qu'attaque terroriste. Alors là, du coup, ça fait rentrer les services de renseignement dans la danse. Donc ça veut dire qu'ils peuvent aller caractériser l'attaquant. Ils peuvent même attaquer l'attaquant. Donc on rentre quand même dans un système compliqué, parce qu'ils vont attaquer la machine. Mais la machine, elle peut très bien être en France, par exemple. Hein. Donc il est mis, par exemple, sur un média français, par exemple, qui a mal sécurisé son serveur. Donc on va se retrouver avec des services de renseignement américains qui peuvent attaquer des médias français, parce qu'ils voient ce serveur-là comme étant celui qui attaque, mais ce n'est pas forcément celui qui utilise ce serveur qui, in fine, peut être dans un autre pays. Donc c'est extrêmement compliqué. Ça peut ouvrir la porte à des choses, à des débordements importants. Et puis il y a eu ce tête-à-tête cette semaine entre Biden, le président américain, avec Vladimir Poutine, le président russe, pour essayer justement de faire en sorte que les autorités russes puissent coopérer un peu plus avec les autorités américaines pour essayer de déceler en fait ces réseaux d'attaquants sur le territoire russe et de pouvoir les arrêter si nécessaire. Alors Biden a dit qu'il y avait 16 secteurs d'activité sensibles sur lesquels il considérait qu'il fallait absolument s'entendre. Vladimir Poutine a plutôt laissé la porte ouverte, mais il a dit « Nous aussi, on a été attaqués par les Américains avec des rançongiciels. On a demandé la coopération américaine, on n'a jamais eu de réponse. » Donc on aimerait que ça aille dans les deux sens.
D'accord, on pourrait imaginer un accord, une harmonisation.
Ouais. En tout cas, une coopération.
Une coopération.
Voilà, pour certains sujets extrêmement sensibles dans les rançongiciels. Alors, quid de l'Europe dans tout ça? Parce que nous, on voit les accords voler, mais si nous, ce sont nos hôpitaux demain qui sont attaqués, enfin déjà c'est le cas aujourd'hui, mais ça peut être nos réseaux d'électricité, de transport, etc., il faudrait qu'on ait le même type d'accord avec la Russie pour pouvoir mettre fin à ces attaques qui peuvent déstabiliser un pays.
Nicolas?
Non, mais c'est vrai que c'est un sujet de plus en plus politique, hein, ces attaques informatiques. Avant, c'était les virus, hein, on en parle depuis toujours, mais ça n'a jamais vraiment inquiété. Et là, l'exemple russe dont on est en train de parler, Emmanuel, est bon, parce qu'on a de plus en plus de rapports qui disent que les Russes attaquent les Américains, que les Américains attaquent les Russes, que l'Iran attaque les deux. Il y a plein de problèmes et on voit que ça peut déstabiliser une élection présidentielle, pas forcément l'enchant du ciel, mais d'autres choses. Donc il y a c'est logique de voir les États-Unis considérer les rançongiciels comme une menace de sécurité intérieure, comme une menace terroriste. Avec évidemment les réserves, est-ce que ça ne va pas leur permettre d'intervenir là où ils ne devraient pas intervenir, d'aller trop loin? Donc c'est évidemment à surveiller. Il faudrait voir les réponses européennes parce que nous aussi on est de plus en plus attaqués et ça serait bien d'avoir une vraie politique en la matière.
Mais quand on voit ce qui s'est passé avec ce transport de carburant et Colonial Pipeline, on peut se dire que finalement une attaque coordonnée de ces ransomware pourrait paralyser un pays.
Bien sûr.
Il suffit de s'attaquer à ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale. En France, on en a.
Bien sûr.
Elles sont. Alors, la liste est classifiée, mais sincèrement, on se doute que EDF est un opérateur d'importance vitale. On se doute que la RATP, la SNCF. Donc, effectivement, une attaque coordonnée sur les réseaux de transport, les réseaux d'alimentation en eau, en électricité, qui finalement ne sont pas très coûteux aujourd'hui, hein, parce qu'un rançongiciel, ce n'est pas très compliqué en fait. Hein. Il suffit que quelqu'un fasse une mauvaise manipulation en interne dans sa société-là pour que le rançongiciel puisse prendre possession d'un système informatique. Donc on voit que c'est peu de coûts, un impact maximum. Et derrière, qu'est-ce que c'est les répercussions? Si vous êtes en Russie ou dans d'autres pays, hein, Corée du Nord, Chine, il n'y a aucune répercussion puisqu'il n'y a pas de collaboration entre les forces de l'ordre. Donc en fait, c'est super, hein, ça vaut mieux faire ça que d'aller cambrioler une banque ou d'aller escroquer quelqu'un. On craint beaucoup, beaucoup moins de choses.
C'est clair. On enchaîne, Nico, avec cette news qui est tombée hier. Franchement, tu la sentais arriver, hein, quand même. Hein. Deux grands constructeurs chinois de smartphones qui vont fusionner.
Tout à fait. C'est en effet pas une surprise. Hein. On parle de OnePlus et Oppo. Vous savez, OnePlus, c'est une entreprise qui, pendant longtemps, a été indépendante, mais a toujours été liée à Oppo, au groupe BBK Electronics.
Mais qui vivait sa vie.
Elle vivait sa vie et elle prétendait surtout « Ah non, mais nous, on ne les connaît pas, on n'a aucun lien », alors qu'il y a quand même énormément de hiérarchies en commun, des RH en commun dans plusieurs pays. J'avais visité les laboratoires photo de OnePlus à Taïwan il y a 2 ans, qui se trouvaient dans les bureaux de Oppo. Il y avait quelques indices qui laissaient entendre que les entreprises étaient proches. Maintenant, depuis un an, en effet, on en a beaucoup parlé ici, OnePlus était de moins en moins indépendant. Carl Pei, un de ses fondateurs, est parti. Il n'y avait plus que Pete Lau. Et Pete Lau avait été embauché par Oppo pour superviser justement un lien entre les deux entreprises. Ça ne sentait pas bon. OnePlus, qui avait une stratégie de faire que du haut de gamme avec 2 téléphones par an, s'est mis à lancer plein de téléphones, à lancer plein d'accessoires.
Qui rentrer plus... dans le rang, en fait, finalement.
Exactement. Et des produits qui ne sont pas forcément bons. Des produits qui sont faits pour attaquer le marché indien, notamment, qui est très puissant et sur lequel OnePlus est très fort, mais qui n'avaient pas vraiment la qualité OnePlus d'autrefois. Et mercredi soir, dans un billet de blog, on a eu OnePlus qui nous a annoncé qu'il allait se rapprocher d'Oppo, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que ça allait leur permettre d'avoir plus de budget, plus de mises à jour. Un discours tout à fait classique, mais maintenant on peut partir du fait que OnePlus et Oppo, c'est la même chose, et que à peu près comme Honor était à Huawei avant ou d'autres marques, c'est plus 2 entreprises séparées avec un actionnaire commun, c'est 2 entreprises. La marque OnePlus va rester, mais ce sera des produits Oppo.
Voilà, c'est-à-dire que la locomotive de l'innovation sera Oppo, et OnePlus prendra, alors j'allais dire les miettes, pas forcément, mais c'est vrai qu'on va se retrouver avec une marque qui aura moins de caractère,
moins
en fait, c'est ça.
Par exemple, sur les technologies de recharge ultra rapide, aujourd'hui, on a le SuperVOOC chez Oppo et le SuperDart chez OnePlus. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne va pas avoir le SuperVOOC chez les deux? Est-ce que ce n'est pas sur ça qu'il va y avoir une simplification? Comme ça, ils s'embêtent moins avec les marques, ils fabriquent un chargeur pour les deux. Ça sera logiquement plus facile pour eux et beaucoup plus logique vu la direction qu'a pris OnePlus depuis un an.
Emmanuel, on va parler de Spotify. Spotify qui doit être un peu chamboulé quand même, hein, avec l'annonce Apple Music, le lossless à 9,99, etc. Alors pour l'instant, c'est le silence radio total, hein, concernant l'offre concurrente, hein, puisque ça y est, hein, l'offre d'Apple est valable depuis quelques jours. Cela dit, Spotify est sur tous les fronts. Hein, ça devient quasiment une super app aujourd'hui, hein, Spotify. Il y a du podcast, il y a plein de services autres que la musique. Et un nouveau va bientôt arriver.
Oui, enfin, il vient d'arriver. Hein,
tout il vient juste. D'arriver.
Voilà, exactement. Il s'appelle Green Room. Alors, c'est un concurrent de Clubhouse. Donc, on en a un peu parlé ici. Hein. C'est une application qui permet de faire des voice chat avec des gens, les écouter parler. Alors, il n'y a pas de vidéo, hein, c'est juste de la voix. Mais ça permet d'organiser comme ça des conférences à plusieurs où on peut écouter des grands noms, des célébrités, discuter en temps réel. Si on arrive à se connecter au bon moment et qu'on a le code d'accès pour pouvoir le faire. Et donc, Green Room, c'est une application qui est séparée de Spotify pour l'instant, donc il faut la télécharger à part.
Donc, c'est une appli à part, d'accord.
C'est une appli à part, effectivement. Après, les mêmes identifiants que sur Spotify fonctionnent, donc on n'a pas à recréer un compte, on peut l'activer avec son compte Spotify. Et donc, c'est une première, là, pour
il
voir
un petit peu. Il faut être abonné payant ou est-ce que ça marche avec...
Non, je crois que tous les... Alors, moi, je ne l'ai pas utilisé encore pour l'instant, je ne l'ai pas installé, mais tous ceux qui ont un compte Spotify peuvent... l'utiliser d'accord. pour activer Green Room. Et donc, ça fonctionne exactement de la même manière que Clubhouse. Ça vient d'être lancé là hier, hein, donc c'est tout récent, hein, donc c'est cette semaine. Et ça repose sur une technologie d'une des acquisitions qu'a pu faire Spotify dans le passé. Alors là, j'ai oublié le nom de la start-up. En
Locker Room, ça s'appelle.
Voilà, c'est ça, exactement. Heureusement que Nicolas est là. Et du coup, effectivement, les notes.
Son carnet numérique en papier.
Notes, c'est
magnifique.
Et du coup, effectivement, ça leur permet de proposer assez rapidement une contre-offre à Clubhouse, même si. Clubhouse, on en parle un peu moins en ce moment et ça a l'air de plutôt être en déclin. Ça aurait été un peu une comète dans le paysage d'Internet. Mais bon, en tout cas, voilà, Spotify aura cette fonctionnalité-là, encore une fois, dans une application à part.
Le soufflet est en train de retomber sur Spotify, non, Nicolas ?
Oui, pour moi, on a enfin un bon concurrent de Clubhouse, voire même c'est l'application qui va tout rafler, hein, selon moi. Les LinkedIn, Facebook, Twitter, tout le monde s'est lancé là-dessus. Ils ont un avantage, Spotify, c'est qu'ils sont sur le milieu des podcasts et ils possèdent une application qui s'appelle Anchor, qui permet aux créateurs de podcasts de créer justement des fiches, diffuser tout ça et compagnie. Il va y avoir une intégration Anchor à cette application Green Room. Donc on peut imaginer que contrairement à Clubhouse, contrairement à tous les services live, toutes les émissions que vous allez pouvoir enregistrer sur Green Room, vous pourrez en faire un podcast. Donc c'est une application deux en un, c'est un tueur. Ça permettrait par exemple dans une émission comme la nôtre d'enregistrer et de diffuser en direct directement et après de laisser un replay sans avoir à faire de montage.
De laisser le podcast sur l'appli Spotify.
Exactement, c'est un tueur cette application. Ça va permettre vraiment pour les créateurs de podcasts de proposer du direct, ce qui n'était pas possible avant, sur une plateforme quand même géante, car Spotify, je crois qu'ils sont peut-être premiers, ou alors ils sont sur le point d'être premiers et de dépasser Apple Podcast.
Mais on a les mêmes particularités, les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on fait un podcast, les gens qui nous écoutent peuvent venir et interagir avec les speakers, en fait.
Ça sera la même chose pour tout dire. Locker Room, donc l'application dont parlait Emmanuel à la base, c'était le Clubhouse du sport. C'était avant Clubhouse, hein, mais l'idée était vous regardez un match de foot et après le match, vous allez sur Locker Room et vous discutez avec d'autres passionnés. Et c'était vraiment le concept. Donc ils ont récupéré la techno, maintenant ils l'ouvrent à tout, que ce soit de la musique, du débat, et ils vont créer l'application qui tue tout sur les podcasts. Ça, j'en ai aucun doute. Après, ce que tu dis, François, sur est-ce que ça commence à se resserrer pour Spotify, forcément, ils ont un gros problème, c'est qu'ils sont dépendants de ce milieu de la musique, du podcast, là où Apple est dépendant de plein d'autres choses. Donc pour eux, quand Apple fait une offre comme ça, ça leur tue complètement leur perspective d'évolution. Mmh. Donc ils ont raison d'aller sur le podcast, ils ont raison d'aller sur de nouveaux services, mais c'est sûr que sur la musique, à un moment, il va falloir qu'ils s'alignent et donc ils vont perdre de l'argent.
Voilà, et on n'a pas encore de réponse de Deezer, hein, notamment, hein, le géant français du streaming audio qui ne s'est pas aligné en fait à l'offre d'Apple. Hein.
Alors, encore. A priori, eux ils disent qu'ils vont mettre le Hi-Fi ou le Hi-Fi en fonction de ce que vous voulez, mais au même prix, sans toucher au tarif.
Ouais. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Un mot sur l'E3 quand même, parce que c'est quand même, ça a été la semaine du jeu vidéo. L'E3, un E3 un peu, on va dire, light, hein, en quelque sorte, puisqu'il était totalement digital. Voilà, bon, peut-être que ça s'est joué à quelques semaines ou quelques mois. Hein. On aurait pu peut-être retrouver un E3 à peu près normal. Cela dit, ce n'est pas un grand cru, hein, visiblement, Nicolas, de cette E3. C'est le grand salon du jeu vidéo annuel.
C'était une reprise timide de l'E3, tu l'as dit, absolument virtuelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de salon à Los Angeles comme tous les ans. Et du coup, ça tue la magie de l'E3. Parce que la magie de l'E3, c'est les communautés de gamers, l'e-sport, les journalistes, les marques.
Les déguisements.
Les déguisements. Et on peut surtout venir essayer les jeux qui vont sortir dans l'année ou dans l'année suivante. En avant-première. Là, c'était pas le cas, il n'y a pas eu de démo et surtout, il n'y a pas vraiment eu de grosses annonces. Chez Nintendo, on attendait beaucoup la Switch Pro, pas de Switch Pro. On a eu quand même deux bonnes annonces et un nouveau jeu Metroid 2D.
Parce que nous, ça fait trois fois qu'on l'annonce, hein, quand même.
On l'annonce toutes les semaines,
on annonce la Switch Pro qui n'arrive pas, si vous voulez. Donc Nintendo, faites un effort, s'il vous plaît, parce que nous, on l'a déjà. Je ne sais pas vous, mais nous, elle est là. Hein.
C'est vrai qu'il va falloir la lancer un jour. Et on a eu une bande-annonce pour le prochain Zelda qui, au vu quand même de ce qu'il est sur le point d'offrir, a quand même l'air d'être adapté à cette fameuse Switch mystérieuse si un jour elle arrive. Donc ça ne sera pas avant 2022. C'est peut-être la plus grosse annonce chez Nintendo. Et au final, dans tout ce qu'on retient des jeux, il n'y a pas de grosses surprises, si ce n'est, pour moi, hein, les meilleures annonces de l'E3, elles n'ont même pas eu lieu à la conférence Microsoft, elles ont eu lieu à la veille de la conférence Microsoft. C'est que la stratégie de Xbox sur le cloud gaming, elle est sur le point de prendre une grosse distance sur Sony, sur la PS5, sur les autres. Ils ont annoncé qu'on pourra jouer au jeu de la dernière console, donc la Xbox Series, sur Xbox One avec le cloud gaming. Donc vous n'avez même pas besoin de changer de console pour avoir les derniers jeux. Ils ont annoncé qu'ils vont lancer une clé HDMI façon Chromecast pour que vous puissiez jouer à la Xbox sans Xbox, qu'ils vont lancer une application sur les téléviseurs connectés. Ça va s'ouvrir au PC, au Mac. Bref, en fait, le futur de Xbox, c'est plus les consoles, c'est les services, c'est le jeu. On savait déjà qu'on allait dans cette direction, mais c'est en train de se matérialiser. Et c'est peut-être l'annonce la plus forte, hein, c'est que le jeu vidéo est en train de complètement muter. Si ce n'est, à part ça, je pense que
le Game Pass aussi, quand même. Hein,
oui, évidemment, le Game Pass, c'est l'abonnement qui sera accessible.
Mais c'est que Microsoft a communiqué pour dire qu'il y aura encore plus de jeux, et c'est vraiment la stratégie de Microsoft d'avoir ce Netflix du jeu vidéo, hein, Emmanuel. Hein. C'est amusant, quoi, parce que quand on fait le parallèle avec Sony, c'est vraiment quelque
c'est
chose
qui les démarque. C'est pas le même modèle. Sony, c'est 80 euros le jeu et des remises après. Microsoft, c'est le jeu intégré dans votre abonnement dès le premier
jour. On loue le jeu, en fait.
Oui, exactement. Alors, la force de Microsoft aujourd'hui, c'est quand même d'avoir 23 studios à lui-même. Donc, il a les droits pour en faire à peu près ce qu'il veut. Hein. Comparativement, Sony, c'est 13 studios. Donc, on voit que Microsoft, en rachetant Bethesda, notamment, plus de 7 milliards de dollars, Ils ont maintenant des contenus propriétaires, ils peuvent en faire à peu près ce qu'ils veulent. Et à côté de ça, bah, ils essaient de convaincre les éditeurs tiers de venir rejoindre la, donc le Game Pass. Mais bon, alors il y a quand même un précédent qui est Google avec Stadia, qui est pour l'instant un énorme échec. Hein. On en a parlé à plusieurs reprises ici. C'est la même logique, c'est-à-dire en gros de mettre une clé HDMI qu'on peut mettre sur le téléviseur connecté à Internet, acheter la manette, pouvoir jouer en ligne. Pour l'instant, c'est vraiment... Google a dû fermer certains de ses studios de jeux vidéo. Le retour même des joueurs n'était pas très bon. Il y avait peu de jeux. Donc un catalogue qui n'était pas suffisamment étoffé.
Donc on achète les jeux, je crois, Stadia.
C'est-à-dire on achète les jeux. Il y a un abonnement à 10 euros par mois qui offre un accès à des jeux, mais ça reste, c'est pas le même modèle que le Game Pass.
Donc effectivement, Microsoft, là, ils se disent il y a un coin à enfoncer. On va réussir là où Google a échoué pour l'instant. Moi, j'attends de voir quand même, hein, parce que Google avait fait une telle com en amont. On s'attendait à un truc extraordinaire, et puis in fine, ça... On a frôlé la cata quand même, hein, ou pas loin de la catastrophe. Donc moi, j'attends de voir techniquement comment ça va fonctionner chez Microsoft. Parce que normalement, bon, comme Google, ils ont la puissance de leur cloud sur lequel s'appuyer justement pour rapprocher les contenus au plus proche des joueurs. Donc on va voir. Voilà, un petit point d'interrogation quand même.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Nicolas.
Merci Emmanuel.
Nicolas Lelouch, journaliste à 0net.com et Emmanuel Paquette.
Ah, merci François.
Lire à l'Express. Voilà, vous allez faire un petit tour dans Vivatech forcément.
On va se balader, on va regarder ce qu'il y a.
Oui, puisque je vous rappelle qu'on enregistre cette émission le jeudi. Hein, parce que si vous nous regardez le dimanche, c'est pas la peine de venir à Vivatech, ce sera totalement fermé. Vous restez avec nous. La suite de quoi je me mêle ici même avec un focus sur un acteur français de la e-santé et du bien-être, comme on dit. Il s'agit de Barakoda et j'ai le plaisir d'accueillir son CEO dans une minute. A tout de suite.
BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Le retour de quoi je me mêle, on est là le dimanche matin, vous le savez, sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur la chaîne 01 TV. Si vous avez une box SFR Orange Free ou si vous êtes sur Fransat, vous nous connaissez. Et puis la chaîne YouTube est 01net.com. On va parler maintenant de e-santé, de bien-être et de santé connectée avec mon invité. Je suis très heureux d'accueillir Thomas Serval. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Vous êtes le CEO donc de Barakoda vous allez nous présenter Barakoda qui devient, on va dire, un acteur de plus en plus important dans le domaine de la e-santé. On connaît WeThings, mais vous êtes en train d'émerger et vous êtes ici donc à Vivatech. Hein, on va parler de tout ça. Et surtout, on va revenir un peu sur la genèse de ce que vous faites, parce que vous êtes présent dans le domaine du bien-être et de la e-santé depuis des années. Ça fait très longtemps qu'on se connaît, Thomas.
Absolument, ça fait presque 20 ans qu'on a commencé à s'intéresser aux objets connectés. Maintenant, plus de 8 ans qu'on s'intéresse aux objets connectés dans la santé, qui est notre nouveau terrain de jeu.
Voilà, avec Colibri, on s'en souvient.
Avec Colibri et ses différentes versions que vous retrouvez maintenant sous licence avec des produits de Colgate.
C'est la brosse à dents.
C'est la brosse à dents qui vous dit si vous êtes bien brossé les dents avec des produits pour les enfants, pour les adultes, qu'on voit malheureusement pas beaucoup en France parce qu'ils sont beaucoup en Chine et aux États-Unis. La balance, avec un projet qu'on a appelé Matteo qui s'appelle B-Balance, qui mesure votre poids avec nos miroirs connectés.
On va parler de tout ça dans un instant. Parce que l'idée aussi, c'est d'évoquer, de prendre le temps d'évoquer un peu à quoi va ressembler cette salle de bain du futur. Et c'est assez intéressant. Mais un mot quand même sur votre vision du futur, Thomas. Parce que c'est ça qui est aussi intéressant. Vous avez commencé avec Colibri, cette brosse à dents connectée, qui était bien sympathique. Mais là, vous passez quand même, avec tous ces nouveaux produits, à un stade, on va dire, plus sérieux. Même si les dents, c'est très sérieux. Hein. Mais on se rend compte aujourd'hui que grâce à des objets connectés qu'on oublie, on va pouvoir monitorer notre santé et être alerté dès qu'il y a un problème.
Absolument. En fait,
Votre vision, ça ?
C'est notre vision. Nous, on appelle ça Daily Health Tech, c'est-à-dire des objets du quotidien qui, avec un petit peu d'intelligence artificielle et de connectivité, deviennent des compagnons de votre bien-être et deviennent aussi des outils au service de la prévention. Parce qu'en fait... La plupart des maladies, c'est mieux quand elles n'arrivent pas. Parce que quand on doit les soigner, parfois, c'est trop tard. Alors, effectivement, on a appris de la brosse à dents. La carie, c'est l'exemple type d'une négligence. C'est la chose qu'on peut éviter le plus souvent. Et en fait, il faut des mois pour qu'une carie apparaisse. Et donc, en fait, c'est une habitude qu'on a pas.
Et après, ça fait mal, c'est compliqué à soigner. Parfois, il faut enlever les dents. Enfin,
exactement. Et donc, en fait, on a généralisé ce qu'on a fait dans la brosse à dents en se disant, en fait, le vrai problème de la santé, en tout cas, notre vision de la santé, c'est d'éviter que les maladies arrivent. Donc, la fameuse prévention.
Je vous coupe, la Colibri ne détecte pas la carie. Non, on est d'accord. C'est-à-dire qu'elle nettoie bien les dents pour éviter d'avoir des caries. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas de prévention. Enfin, oui, c'est de la prévention, mais on ne va pas détecter qu'on a une pathologie ou un début de carie avec votre brosse à dents.
Alors, en fait, on a sorti plusieurs générations de colibris. Colibris regardait l'habitude de brossage. En fait, on est passé, on appelle ça un index chez nous, on est passé de la mesure de la qualité du brossage avant colibris basée sur le temps de brossage à une mesure basée sur la surface des dents brossées. Donc, ce que Colibri a inventé, et on a tous les brevets sur ça, c'est la possibilité de vérifier à partir de l'analyse du mouvement ou le fait de vous regarder, vous brosser les dents, de savoir quelle est la part de la surface de vos dents que vous avez brossée ou pas brossée. À partir de ça, on sait que...
Vous faites une cartographie, en fait, de la dent.
Exactement.
Enfin, de la mâchoire.
Exactement. Et on a présenté avec notre partenaire Colgate au CES d'il y a 2 ans, un objet un peu plus compliqué, basé aussi sur la technologie Colibri, qui est capable de détecter la présence de tartre. C'est un produit qui s'appelle Plaqueless. Et donc, peu à peu, on va vers la détection de la carie. Mais avant d'y arriver, comme on est dans le brossage de dents, c'est quelque chose qui n'est pas un objet de santé. Mais dès lors qu'on détecte une carie, on devient un medical device. Et donc, c'est un chemin qui est beaucoup, beaucoup plus long et sur lequel il faut avancer à pas précautionneux. Et donc, on n'a pas voulu brûler les étapes. Mais la vision, elle est d'aller de l'analyse... de nouvelles grandeurs, donc de nouveaux index, pour derrière comprendre de nouvelles habitudes, bonnes ou mauvaises, voir comment on peut avoir un impact sur ces habitudes et mesurer cliniquement si ça a un impact sur votre santé, c'est-à-dire sur les caries, sur le mal de dos et toutes les autres pathologies qu'on a si communément basées sur nos mauvaises habitudes.
La prévention, ça peut faire économiser des milliards, en fait.
Ah, hein, c'est des centaines
prévenir
de milliards.
Prévenir des maladies.
C'est des centaines de milliards aujourd'hui. Et puis ça crée une nouvelle industrie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez l'industrie de la pharmacie qui vous soigne quand ça ne va pas.
Mais parce que ça ne va pas, en fait.
Vous avez l'assurance qui vous paye et vous rembourse quand ça ne va pas. Mais si on évitait que ça n'aille pas...
Vous allez vous faire des ennemis, là, non ?
Eh bien, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que pas du tout. La grande surprise, quand on a travaillé avec les dentistes, c'est qu'en fait, ils nous ont expliqué qu'une carie, ce n'est pas du tout intéressant pour eux. D'abord, ça ne leur apporte rien. Ça crée une relation très désagréable avec, avec le dentiste, c'est douloureux, etc. Ah. Et donc, ils nous préfèrent nous expliquer qu'eux, ils aiment s'occuper des sourires.
Oui, c'est ça. Et puis, on a d'autres problèmes liés aux dents. Hein. Les dents de sagesse, vous ne pouvez pas soigner les dents de sagesse, par exemple.
Les gingivites et d'autres problématiques. Et donc, on est passé de la dent à la santé de manière plus holistique, en partant de cette idée du Daily Health Tech, c'est-à-dire trouver des nouveaux index qui mesurent des grandeurs sur lesquels on peut avoir un impact et voir si on a un changement de comportement et donc un changement de comportement et une prévention des maladies les plus communes.
Alors, on va parler maintenant de votre vision de la salle de bain du futur, parce que la salle de bain, c'est un lieu très stratégique. Hein. On y passe forcément tous les jours plusieurs dizaines de minutes, enfin tout dépend si on est rapide ou pas, mais il y a un parcours dans la salle de bain. Hein. On se lave les dents, on va se doucher, on a un pèse-personne, on a un miroir, etc. Et vous vous dites, tiens, si on peut connecter certains de ces objets que l'on voit et qui nous voient tous les jours, ça peut être le bon endroit pour prévenir certaines maladies.
Absolument. En fait, aujourd'hui, Barracoda, c'est plus de 250 collaborateurs, dont la moitié sont des ingénieurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Et donc, ce qui nourrit les ingénieurs qui font de l'intelligence artificielle, c'est la donnée. Et il faut trouver des données pertinentes pour vous aider à prévenir votre comportement. Et donc, en fait, on s'est dit que le meilleur endroit, dès lors qu'on a respecté tous les éléments de privacy, et donc de respect de la vie privée, d'intimité qui sont essentiels à la salle de bain, le meilleur endroit où on peut tout connaître de votre comportement en santé, c'est la salle de bain. Domaine dans lequel les GAFAM, qui ne sont pas nos meilleurs amis, au moins en ce qui concerne les données de santé, ont beaucoup de mal à aller. Et donc la salle de bain permet à une PME européenne, parce qu'on n'est plus tout à fait une petite start-up, d'avoir le réglementaire qui nous protège, les consommateurs qui n'ont pas véritablement envie d'avoir des toilettes Apple ou des miroirs Facebook, de parler à Alexa au milieu d'activités qui sont très intimes. Mmh. Et donc, avoir une société qui se crée, c'est la nouvelle vision de Barracoda autour de la santé au quotidien et de protection de la vie privée, nous semble être une très belle opportunité pour croître avec des objets que nous ne fabriquons pas tous, mais que l'on connecte entre eux. Parce que connaître votre poids, si on ne connaît pas votre taille, ou savoir que vous avez brossé bien vos dents, mais vous n'avez pas touché à votre peau et que vous avez peut-être pris 10 kilos sans vous en rendre compte, avoir une information basée sur une seule app que vous devez utiliser avec votre téléphone, ça ne vous aide pas vraiment. Donc en fait, on a essayé de prendre le problème dans l'autre sens en disant, est-ce qu'on peut avoir une approche holistique de la prévention et de la santé dans la salle de bain ?
Et tout ça, et c'est ça que je trouve formidable en fait, est-ce que c'est aussi un peu la stratégie de WeThings. On parlera de WeThings, est-ce que vous vous considérez comme un concurrent ou est-ce que c'est plutôt, on va dire, la fierté d'avoir deux géants de l'e-santé en France. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est le fait de se dire que finalement, on ne se rend pas compte de toutes ces mesures. On n'est pas obligé d'appuyer sur un bouton, on n'est pas obligé de mettre un bracelet. Tout se fait de manière automatique. Alors, ça, sans qu'on s'en rende compte. Et c'est ça, en fait, la force et la qualité de ces objets connectés, non ?
Alors, ça, c'est vraiment une des apprentissages qu'on a eu. On a plusieurs millions de brosses à dents qui sont déployées dans le monde. Et donc, on s'est rendu compte qu'au bout de 15 jours d'utilisation de la brosse à dents avec un téléphone portable qui devait la connecter, etc., les utilisations baissaient de 70 à 80%.
Comme beaucoup d'objets connectés, d'ailleurs.
Comme tous les objets connectés. Et donc, en fait, pour nous, pour que ça s'insère dans la routine quotidienne, on a deux principes. Le premier, c'est qu'on ne réinvente pas d'objets. On les augmente. Donc, on ne va pas vous réinventer la balance, on ne va pas vous réinventer le miroir. On va les augmenter, on va les connecter, on va rajouter une petite couche d'intelligence. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils doivent être invisibles. C'est-à-dire que le matin, vous êtes dans une course, enfin, pour beaucoup de gens, notamment quand ils travaillent. Donc, tout ce qui va être une nouvelle friction va être une cause d'abandon. Donc, les rendre invisibles, ça demande beaucoup plus d'intelligence que de les rendre visibles, puisque quelque part, il faut savoir quand est-ce qu'on est pertinent. Et donc, en fait, dans pas mal de nos nouveaux objets, notamment B-Balance, qui est notre tapis de bain connecté, ou nos miroirs connectés, on ne vous demande rien, et on vous prévient que quand il se passe quelque chose, ou quand vous avez envie de quelque chose. Et donc, ça change complètement notre rapport, on va dire, à notre téléphone, où de manière addictive, on clique, on monte dessus, on lance les apps. Là, c'est, vous faites comme d'habitude, et si vous avez besoin, ou s'il se passe quelque chose, c'est-à-dire s'il y a une grande variation sur vos données, vous avez perdu 5 kilos en 2 semaines, ça veut dire qu'il y a une vraie pathologie sous-jacente, on vous prévient, on vous dit il se passe quelque chose, on vous prévient au bon moment, dans une des démos qu'on fait sur le salon, on commence par reconnaître votre humeur. Parce que si je vous parle et que vous êtes de mauvaise humeur ou stressé, vaut mieux
c'est
que
un paramètre que vous prenez en compte.
En fait, on a même réinventé nos interfaces par rapport à l'humeur des gens, parce que l'important, c'est l'impact du message. Mmh. Quand je vous parlais de nos index, un index, c'est quelque chose qui a un impact sur les gens. Donc, si je vous dis, quand vous êtes absolument incapable de m'écouter, qu'il faut que vous preniez 5 secondes pour respirer...
Mais je ne les prendrai pas.
Et pire que ça, vous allez me détester.
Oui,
donc, moi,
sûr.
J'ai besoin...
Qu'on vous aime.
Voilà, j'ai besoin d'être accepté dans la
sûr.
Salle de bain.
Ouais. Alors, parlez-nous de ces deux objets qui arrivent dans la salle de bain. Vous avez présenté au CES 2020, je me souviens, Matteo.
Hein,
donc, est-ce que vous pouvez nous présenter Matteo ?
Alors, Matteo, c'est un tapis de bain. Sur lequel vous montez tous les jours, dans lequel on a...
Donc on met à côté de la douche, en fait.
Qu'on met en bas de la douche ou devant votre
et
miroir.
Et qui sert toujours à éponger les pieds lorsqu'on sort de la douche.
Éponger les pieds. Et en fait, on est parti de l'idée que, par rapport à des gens comme WeThings qui vendent des balances sur lesquelles on monte, en fait, 60% des gens ne remontent pas sur leur balance parce qu'ils n'aiment pas le résultat.
Non, mais c'est vrai.
C'est vrai,
c'est désagréable une balance.
Et ça donne des mauvaises nouvelles.
Mais bien sûr.
Des nouvelles. Enfin, pour beaucoup de gens, malheureusement.
J'en sais quelque chose.
Et la deuxième chose, c'est pour beaucoup de gens qui ont des petites salles de bain, il faut tirer la balance, monter dessus, prendre l'application, c'est une galère.
Donc, on s'est dit. Alors que le tapis de bain.
Le tapis de bain, on ne se pose pas la question, on monte dessus. Mais ça ne nous suffisait pas. Et on s'est rendu compte que l'index, qui était historiquement le poids, qu'on. Mesure régulièrement, qui date des années 40 pour les assureurs américains. C'est une bonne mesure d'un certain nombre de choses, mais on pourrait faire beaucoup mieux. On pourrait regarder le poids et votre posture. Donc s'intéresser non seulement à votre poids, votre graisse et tout ce que vous donnent les balances du truc, mais on peut regarder que deux personnes avec 50 kg ou 60 kg, l'une peut être en excellente santé et l'autre avoir une scoliose ou un déséquilibre ou un pied plus grand que l'autre.
Parce que quand je
diabétique.
Vais sortir de ma douche ou rentrer dans la douche, je vais poser mes pieds sur ce tapis de bain.
Sur ce tapis de bain.
Et en ces quelques fractions de secondes, vous allez analyser.
D'abord, on va savoir c'est vous.
D'accord.
Donc, quelque part, si ma fille monte sur la balance et que moi, je fais des efforts pour perdre du poids et qu'elle est en pleine croissance, elle gagne, mes données ne seront pas polluées par les siennes. Donc, on va d'abord savoir que c'est vous. C'est digital footprint, c'est quand même
c'est
la
top.
Base.
Ouais,
la deuxième chose, c'est on va voir votre posture. On va savoir si votre poids est bien réparti ou pas. Détecter si vous avez le pied grec. Et donc, on peut même des éléments un peu amusants sur la génétique. Et détecter des débuts de maladies dégénératives neurologiques. Par exemple, l'arrivée d'Alzheimer, on le détecte par un changement de votre centre de gravité. Donc c'est un objet que vous aviez chez le podologue et vous aurez la bonne taille pour vos chaussures quand vous les commanderez sur Amazon ou sur une autre des marques en ligne.
Incroyable. Mais alors, c'est un tapis qui ressemble à un vrai tapis de bain.
C'est un vrai tapis de bain. Il fait moins de 2 cm d'épaisseur.
D'accord. Et il est quoi? Il marche à pile, en fait?
Alors, il marche sur batterie.
Sur batterie, d'accord.
Il marche plusieurs
mois. Il se connecte au Wi-Fi?
Il se connecte au Bluetooth et au Wi-Fi.
D'accord.
Et il se connecte sur
votre watch.
Et on l'oublie. Et donc, on va lancer, c'est le fameux projet Matteo qu'on a renommé Balance parce qu'on s'est rendu compte que le but, c'est l'équilibre. Et en fait, on est très intéressé chez Barracoda à trouver votre équilibre. Et en fait, aujourd'hui, on va le lancer dans le cadre d'une campagne Kickstarter parce qu'une des choses qu'on fait qui nous différencie d'autres acteurs, c'est qu'on construit nos objets avec les utilisateurs pour qu'ils vraiment ils leur fassent du bien. Et c'est très difficile quand vous avez une idée a priori tant que vous ne vous confrontez pas au consommateur. Et donc avec Colibri, on avait fait ça il y a 7 ans. On a eu 1000 personnes qui nous ont dit « Votre brosse à dents, il faut qu'elle marche parce que j'ai besoin de ça pour mes enfants, j'ai besoin de ça. » Et qui nous ont donné 1000 petits trucs qui ont fait que la brosse à dents est devenue le succès.
Et la balance, on pourrait l'avoir quand, à votre avis?
Le Kickstarter va commencer à partir de Q3 et on va livrer nos premiers clients début 2022.
Un mot sur ce partenariat avec Huawei que vous avez mis en place. Alors Huawei, bon, juste un mot, c'est un partenariat, j'imagine, intéressant pour vous, mais qui est un peu sulfureux en ce moment. Hein. On voit que c'est un acteur qui est quand même assez décrié pour des raisons de vie privée, de données personnelles, etc. J'imagine que vous avez pesé le pour et le contre quand ils vous ont approché. Pourquoi les avoir choisis?
Alors, dans nos activités de brosse à dents...
J'imagine aussi pour l'argent, mais pas que.
Non, alors, les partenariats qu'on fait, ils ne sont pas basés sur l'argent, mais notre vocation chez Barracoda... Et notre modèle économique est très différent des sociétés classiques. Il est basé sur faire des innovations, inventer des choses, déposer nos brevets. On a plus de 50 brevets aujourd'hui sur nos innovations. On a un vrai créateur de propriété intellectuelle industrielle en France. Et après, de trouver des acteurs qui licencient notre technologie et qui les distribuent. Et donc, en fait, notre problématique, c'est à chaque fois, quand je fais une innovation, quel est l'acteur qui va être capable de mettre ma technologie à la disposition du plus grand nombre
plus
de
grand
personnes
nombre, oui. Donc, Colgate pour les
Donc, on prend les leaders. Voilà. Et donc, on a travaillé beaucoup en Chine avec Colgate. Jusqu'à un moment, on a découvert l'écosystème de Huawei. Et en Chine, c'est 210 millions de clients. Donc, ce n'est pas une question de savoir si c'est bien ou c'est pas. Il y a 210 millions de personnes qui utilisent...
Non, mais en Chine, c'est bien. Mais en dehors de la Chine, c'est vrai que ça pose des questions, en tout cas.
Absolument. Et donc, quelque part, nous, on a fait un partenariat qui est basé sur l'utilisation de leurs technologies qui sont open source. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de compromission sur nos principes fondamentaux, sur la donnée. Et c'est nous qui la traitons. En fait, il n'y a aucune donnée qui va chez Huawei. Au contraire, Huawei est très content qu'il n'y ait pas de doute sur le fait qu'ils n'emmènent pas leurs données en Chine. Ils sont
très
contents
d'avoir
un acteur européen dont l'obsession et les systèmes, ce qu'on appelle son privacy by design, GDPR compliant.
Et alors, qu'est-ce qu'apporte cet accord? En fait, vous allez donner plus de... Il y aura des petits bonus comme ça aux utilisateurs de produits Huawei?
Donc, aujourd'hui, c'est un accord qui porte sur l'Europe et les États-Unis. On commence tout juste la relation. Il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Donc, on est très heureux d'être là avec eux. Et on a implémenté sur nos miroirs connectés, dont j'ai peu parlé, qui sont des miroirs que vous mettez dans votre salle de bain et qui vont scanner regarder votre température, savoir si vous avez des problèmes de peau, regarder votre rythme cardiaque, enfin détecter si vous avez des symptômes de maladies connues, s'il y a du Covid qui arrive, etc. De permettre, quand vous avez un téléphone Huawei, de faire un certain nombre de choses plus facilement. Encore une fois, le seamless est au cœur de notre expérience pour que les produits soient acceptés. Si vous avez un téléphone Huawei, c'est ce qu'on démontre là, grosso modo, vous avez votre application de musique favorite, vous appuyez sur un bouton, vous n'avez plus besoin d'utiliser le téléphone et toute l'interface avec votre application
favorite se fait sur le miroir.
Vos mains sont pas... On ne touche pas le miroir, il est touchless. C'est super sympa. Si vous avez intégré Huawei HealthKit, vous avez une des montres Huawei, automatiquement, les données qui sont sur votre montre, on les rapatrie en France sur le miroir. Donc en fait, c'est presque l'inverse. On est en train de prendre les données que Huawei collecte et on les réintègre dans notre écosystème sécurisé.
Eh bien voilà, alors on aurait pu encore parler de ce miroir connecté qui est passionnant, mais on a déjà une belle photo de ce que vous faites, Thomas, et merci d'être venu dans De quoi je me mêle, c'est passionnant tout ça.
Je peux rajouter un tout petit quelque chose?
Quelques secondes, allez,
en fait,
on y va.
Un des points très importants pour nous développer avec nos 250 collaborateurs, c'est qu'on recherche des talents.
Eh bien, voilà.
Et donc si quelqu'un cherche du travail dans l'ingénierie pour travailler avec des grandes multinationales partout dans le monde...
Et vous en cherchez combien déjà?
On a 50 postes ouverts aujourd'hui.
Et vous avez du mal à les trouver.
On a énormément de mal et on recrute à bras ouverts toute nationalité, tout talent, dès lors que les gens veulent changer le monde dans la santé.
Ça, comme ça, ça mériterait carrément une autre émission, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai manque aujourd'hui de talent, hein, dans le domaine de l'informatique, du développement, enfin du codage, etc. Merci beaucoup Thomas.
Merci beaucoup.
Rappelons que vous êtes le CEO de Barracoda à l'occasion de ce salon Vivatech. Merci de nous avoir suivis. Ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Et on sera là, bien sûr, la semaine prochaine. Portez-vous bien et à très vite.
De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et 01 TV.